Et ce matin, le sujet, c'est pas n'importe quoi. On va parler du centre du mystère de Dieu. Ça a l'air assez haut et profond. Mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Avez-vous déjà remarqué ce passage en Philippiens chapitre 1? Je le trouve étonnant, ça a capté mon attention. Où Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. Et on voit dans ce passage un lien incontestable entre la qualité de notre vie à la fin et notre capacité de discerner les choses les meilleures. C'est un peu étrange. Paul est en train de dire, quand vous lisez les Écritures, il y a des choses meilleures que d'autres. Tout est vrai. Mais on va voir peut-être ce matin, en lisant un passage en Colossiens, ce que ça veut dire. Peut-être ça va nous permettre de capter un petit peu quelques-unes des choses les meilleures. Donc voici le passage par lequel j'espère que Dieu va nous parler ce matin. Et comme je dis, il nous révèle en effet les choses les meilleures. Allons-y. Chapitre 1, j'ai mis tout le passage pour que vous puissiez suivre. On va regarder tout ça ensemble. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Vous avez sans doute remarqué que dans les écrits, dans les lettres de Paul, Paul se dessine souvent comme serviteur de Dieu, comme il fait dans cette phrase-là, ou ministre de Jésus-Christ. Et c'est une bonne description d'un apôtre, mais c'est aussi une bonne description de tout chrétien. On est tous des serviteurs de Dieu. Ça fait partie de notre mandat, notre définition. Et au verset 25 de ce passage, Paul dit, « J'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Et le semeur dit plus précisément, le semeur dit d'annoncer la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Et ça, c'est très intéressant ce que ça veut dire. Moi, c'est un peu nouveau ce que je vous dis. Ça me surprend pas quelque part. J'ai vu les pas un peu dans ce sens-là. Mais annoncer la parole de Dieu dans toute sa plénitude, voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. Non pas uniquement les petits morceaux qui nous attirent, ou des sections qu'on aime, mais il dit la Bible dans toute sa plénitude. Et voilà l'importance de cette section de l'Épître aux Colossiens, car dans ces versets, Paul nous décrit comment la parole de Dieu est portée à sa plénitude. Et le mot plénitude, ici, ne veut pas dire tout simplement le plein contenu de la parole de Dieu, car toute la Bible, tout le livre contient la parole de Dieu et la vérité, dans ce sens-là. Mais ici, Paul parle ici de la plénitude de la parole de Dieu à son apogée, dans l'idée de dans le sens où la parole de Dieu atteint son point culminant. C'est dans ce sens-là, son but ultime, son comble, son point le plus élevé. C'est ça l'idée de prêcher ici la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Paul est en train de dire, je vais vous parler de quelque chose, de le summum, le but de la parole de Dieu, la pièce de résistance, si vous voulez. Et c'est le même mot que Jésus a utilisé quand il a dit « afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète, comblée, le comble, à son max ». Vous voyez l'idée? Alors, tout le contenu de la parole montre du doigt et vise ce point d'aboutissement, ce complétitude dont il va nous parler ici. Paul dit « tout mène vers ça » et « tout sort ». De cela. Et cette parole de Dieu dans toute sa plénitude, comme nous verrons en quelques instants, dévoile ce que Paul appelle un mystère. Est-ce que le mot mystère, je vois mal, un mystère caché. C'est le mot qu'il utilise au verset 26. Et Paul ne veut pas dire simplement ici que la Bible est difficile à comprendre, même si c'est vrai parfois, n'est-ce pas? C'est pas ça qu'il veut dire. Ici, Paul parle de la manière que la parole de Dieu est annoncée dans sa plénitude pour déchiffrer le code. L'idée est qu'elle élucide un mystère. Annoncer la parole de Dieu dans toute sa plénitude veut dire découvrir quelque chose qui nous permet de déverrouiller, de déchiffrer un mystère, quelque chose qui était caché avant. Et c'est pour cela que Paul dit au verset 25 et 26, il dit, j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée afin que j'annonce la parole de Dieu dans sa plénitude, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, révélé maintenant à ses saints. Donc c'est quand même un passage assez important. Quelque part. Il a dit, je vais vous parler des choses que personne n'a vues pendant longtemps, et maintenant, ils ont été révélés par le biais de Paul, surtout, et il dit, je vais vous en parler, parce que c'est le centre, c'est le summum, c'est le but de tout. J'arrête là un moment, parce que de nos jours, nous utilisons le mystère souvent pour des films ou des livres où on cherche le coupable, n'est-ce pas? L'auteur du crime, comme dans les livres d'Agatha Christie. Moi, je n'en ai jamais lu, mais ils ont fait des films de cela. Et dans ces livres, nous suivons le héros qui observe de loin, d'une certaine distance, et qui sait comment, tout d'un coup, il met la main sur le coupable. Monsieur Green, avec le pistolet dans la bibliothèque. Fouing. Et quand le héros, à la fin du film ou à la fin du livre, explique les indices qu'il avait suivis pour découvrir qui était le coupable, quand il élucide le mystère, nous disons, ben, voyons, voilà, maintenant je le vois, je ne l'avais pas, mais c'est vrai, c'est évident, n'est-ce pas? Et si nous retournions revoir le film, ce qui serait un peu moins intéressant parce que nous connaissons déjà la fin, nous remarquerions toutes sortes de petits gestes et indices que nous n'avions pas remarqués la première fois, mais qui maintenant prennent vie, car nous connaissons le mystère. Nous les verrons, on dira, ah oui, bien sûr, oui, voilà, je le vois, nous avons déchiffré le code. C'est ça l'idée dans ce passage-là. Paul est en train de dire qu'il existe des réalités qui s'étendent à travers tous les temps et tous les âges, qui, pour les lecteurs, n'avait aucun sens, jusqu'à ce point-là, quand il parle. Il ne pouvait pas comprendre, quelque chose n'était pas cohérent. On regarde le tabernacle avec les sacrifices et tout ça dans l'Ancien Testament, puis le temple plus tard, et on dit, oui, mais je sais pas exactement comment ça fit, quoi, si on peut dire ça. On essaie de lire les prophètes, et parfois c'est comme essayer de lire un livre à l'envers. On ne voit pas comment ça fit, on capte pas le sens. Bien sûr que non, avant qu'on ait déchiffré le mystère. Mais après, quand on a déchiffré le mystère, on retourne et on relit l'Ancien Testament et il commence à avoir du sens, de plus en plus de sens. On dit, ah ah, oui, ok. Donc, je ne suis pas en train de dire nécessairement que les Écritures sont comme un roman d'Agatha Christie, mais le mot mystère veut dire un dévoilement. Il y a quelque chose qui lentement a été mis à jour. La révélation de Dieu est progressive. Cela ne veut pas dire que nous progressons des demi-vérités à des vérités 100% vraies. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est progressif dans le sens qu'il y a une promesse d'accomplissement. Ça mène vers quelque chose. Et il se trouve des indices parsemés ici et là, tout le long du chemin, qui indiquent la fin ultime que Dieu poursuit. Et Paul dit ici dans ce passage qu'un jour, ces indices sont arrivés à leur accomplissement, à leur plénitude. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant retourner lire les passages de l'Ancien Testament et les comprendre. Et l'ensemble de l'Ancien Testament est aussi vivant que le Nouveau Testament une fois qu'on a compris le mystère. Vous suivez? Vous êtes avec moi un peu? Ça, c'est un peu l'introduction. Mais maintenant, la grande question devient, quel est le mystère, n'est-ce pas? Paul fait une grande déclaration au verset 26 à propos de la parole de Dieu dans sa plénitude qui concerne le mystère qui a été caché de tous les temps et tous les âges, mais qui est maintenant révélé aux saints. Il y en a eu des indices tout le long du chemin que nous n'avons pas compris, mais que nous comprenons maintenant puisque le mystère a été dévoilé, surtout par le biais de Paul et les autres apôtres. Et c'est ici où Paul réduit le mystère caché depuis tous les temps, ce point culminant, il est réduit à sept mots. Nous les trouvons au verset 27. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, et voici les sept mots, Christ en vous, espérance de la gloire. Maintenant, nous allons regarder tout cela en plus en détail, d'accord? C'est sept mots. Je vais parler de quatre éléments qui sont tirés de ces sept mots. D'accord? On y va. Et voici un point important. Il est impératif de nous rappeler que nous ne sommes pas en train ici de parler d'un élément de la vérité parmi d'autres, mais plutôt de la parole de Dieu dans sa plénitude, arrivée à son apogée, son but ultime. Ça devient le centre de tout, quelque part. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi qui le dis, mais ça devient le centre de tout. Sans comprendre ce mystère, le christianisme n'a pas de sens. La Bible n'a pas de sens. La vie chrétienne n'a pas de sens. C'est-à-dire, nous parlons de la clé qui résout le mystère, qui déchiffre le code pour que le reste des Écritures et pour que toute la vie chrétienne ait du sens à nos yeux. Moi, je pense que c'est tellement important parce que sinon, on essaie de jongler les différents morceaux du christianisme et on tourne en rond souvent, on n'avance pas. Ici, on a une étoile du Nord au centre qui ne nie pas le reste, mais qui confirme tout le reste et donne un sens qui trace une voie, qui mène quelque part. Pour moi, c'est ce qui manque le plus à nos églises. On ne trouve pas l'étoile du Nord. Donc, cherchons les quatre éléments. Le premier élément a rapport à une personne, Christ. Ça, c'est le premier. Le premier des sept mots est Christ. Le premier mot de la parole de Dieu dans sa plénitude est Christ. N'est-ce pas vrai que nous parlons du mot la parole de Dieu en deux sens? N'est-ce pas? Nous avons deux façons différentes dans les Écritures. Quand nous parlons du livre, les Écritures, nous parlons de la parole de Dieu, ce livre inspiré du Saint-Esprit. Et voilà donc pourquoi les Écritures sont tout à fait dignes de notre confiance et pourquoi elles sont aussi tout à fait suffisantes, efficaces. Mais les Écritures font référence à la parole de Dieu d'une seconde façon. Au tout début de l'évangile de Jean, nous lisons « Au commencement était la parole de Dieu était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et là, évidemment, Jean fait référence de la parole de Dieu qui est Christ lui-même. Christ lui-même est la parole de Dieu. Christ lui-même est le message. Christ lui-même est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et la différence entre la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu vivante, Christ lui-même, se résume en ceci, et j'espère que vous allez capter ça parce que je pense que c'est important. La Bible est vraie, mais elle n'est pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Subtil mais important, une illustration. Si vous allez sur la page web de Brussels Airlines, ce que j'ai fait dernièrement, vous regardez leur horaire, vous allez découvrir qu'il y a un avion qui quitte Bruxelles tous les jours pour Londres à 9h45. D'ores et déjà, l'horaire est vrai. D'accord? Mais il est vrai seulement dans le sens qui rend témoignage à la vérité qui est l'avion qui quitte. Vous comprenez que l'horaire, bon, ça c'est la chose, et l'horaire c'est ça, l'horaire ne pourrait jamais vous amener à Londres. L'horaire vous dit comment aller à Londres, mais l'horaire n'a pas la capacité de vous y amener, c'est l'avion qui m'amène. Il faut que je m'amuse un peu quand même, hein, c'est pas facile. Et vous allez voir que je me suis amusé pas mal, n'est-ce pas? Donc les Écritures sont vraies, mais si jamais nous détachons les Écritures de Jésus-Christ, la Bible restera vraie, mais elle ne pourra jamais nous amener à la vérité. Ça c'est subtil, très important. Ça serait un peu comme si quelqu'un restait devant l'horaire toute la journée sans monter à bord. On perd son temps parce que l'horaire est là pour dire « avion est là, monte à bord ». En hébreu, l'auteur dit « à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé ». Christ est le centre, Christ est la vérité, Christ est la parole de Dieu. Retournons à notre passage en Colossiens au chapitre 2 où Paul réitère ce premier élément. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà le mystère, Christ. Ça, c'est le premier élément. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et voilà pourquoi, si nous voulons être fidèles dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous devons découvrir que la Bible nous ramène toujours à Jésus-Christ. Comme tous les chemins mènent à Rome, comme tous les artères et les veines mènent au cœur, les Écritures, toutes les Écritures nous amèneront à Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité dont témoignent les Écritures. Alors, le premier élément en ce qui concerne le mystère, c'est qu'il est à propos d'une personne, Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième élément, tiré des sept noms, il s'agit d'un endroit en vous. Ça, c'est le deuxième. Auparavant, Dieu était avec son peuple, Dieu était pour son peuple, mais maintenant, il habite dans son peuple. Ça, c'est le deuxième. C'est Christ, mais c'est pas Christ n'importe où. C'est Christ en nous. Ça, c'est le deuxième élément. En Jean 14, quand Jésus était dans la chambre haute avec ses disciples, la soirée de la crucifixion, une des choses qu'il avait dit pour les préparer pour ce qui s'en venait, c'est qu'il a dit, était à propos du Saint-Esprit. Et il a dit, car il demeure avec vous, il sera en vous. Grande distinction, comme nous allons voir. Très élément, ça fait partie du mystère. Christ, mais pas Christ n'importe où, Christ en nous. Mais quelle est la signification de ce deuxième élément? Et pourquoi est-il crucial? Je me rends compte aujourd'hui que pendant les premières années de ma vie chrétienne, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont s'identifier, mais pendant les premières années de ma vie chrétienne, je suis devenu chrétien à 20 ans, j'avais une drôle de conception en quoi consistait ma vie chrétienne. Ma compréhension fondamentale était que quand Jésus Quand j'avais reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, Dieu m'avait donné trois choses. Je ne l'aurais pas dit sur le coup, mais maintenant je me rends compte que c'était dans ma tête à ce moment-là. Vous me suivez? La première chose qu'il m'avait donnée, c'était, dans un langage imagé, c'était un billet. Deuxième chose, un certificat. Et la troisième chose, un catalogue. C'était ma conception à cette époque de ce que j'avais reçu en devenant chrétien. Sur le billet, on pouvait lire « Bon pour un aller simple au ciel » et je savais que je finirais au ciel. Ça, j'avais compris. Ça, c'est la justification par la foi. Je savais que Jésus avait payé, donc moi, j'avais sa justice, lui a pris mon péché et je croyais en effet que c'était ça le but ultime de la vie chrétienne. Quand vient le moment, j'ai mon billet. Vous savez que ça, c'est vrai. Je ne minimise pas ça du tout, mais ce n'est que le début. Ce n'est que la porte, quoi. Donc, j'avais ce billet. J'avais une assurance de mon salut. Le certificat disait, le présent a pour but de certifier que tous les péchés de James Moore ont été pardonnés, signé Dieu. Et évidemment, c'était ce certificat-là qui me rendait éligible pour utiliser le billet au moment venu. Et en plus, ce certificat avait été écrit en lettres de sang, car la Bible déclare « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Donc, c'est pas n'importe quoi. J'avais un billet, un certificat. Et le résultat de ce certificat, c'était que ma vie devait maintenant être vécue pour exprimer ma gratitude envers Dieu pour un tel don. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dès lors, ma responsabilité était de vivre la vie chrétienne, ce qui n'est pas facile, mais c'était la troisième chose qu'il m'avait donné, Dieu m'avait pourvu, qui m'équipait pour accomplir cette tâche. Il s'agissait d'un catalogue de vente, par correspondance, qu'on appelait la Bible. J'avais vu la Bible un peu comme un catalogue de vente par correspondance. Et c'était dans ce catalogue que je trouvais la liste de toutes les bonnes choses que je pouvais recevoir de Dieu. Des choses qui m'équipaient pour pouvoir vivre la vie chrétienne d'une façon convenable. Dans cette perspective, Dieu au ciel, il avait une sorte de supermarché spirituel, avec des rayons bourrés de cadeaux. Tout ce que j'avais à faire, c'était de placer ma commande, on appelle ça la prière, et Dieu enverrait son garçon de course, le Saint-Esprit, qui livrerait la marchandise. N'est-ce pas? Moi, c'était quand même assez gai, regarde. Un exemple, je lisais dans le catalogue que je pourrais recevoir de la joie. Je n'étais pas joyeux. Alors, je plaçais ma commande en priant, « Seigneur, j'ai besoin de la joie, donne-moi de ta joie, s'il te plaît. » Et j'imaginais le Saint-Esprit arriver avec une sorte de une tube de joie, un peu comme le dentifrice, et il a enlevé le couvercle et il a versé la joie dans ma gorge vers l'intérieur, et j'ai dit « Ouh, j'ai de la joie !» Je suis devenu tout joyeux en dedans, pour un petit bout de temps, parce que ça se dissipait. Est-ce qu'on dit « ça se dissipait » ou « ça dissipait » ?« Ça se dissipait ». Donc, il fallait souvent placer des commandes, comme on fait à Amazon aujourd'hui, quoi. Puis, je lisais dans le catalogue que je pouvais obtenir de la paix. Alors, je prie, Seigneur, je me sens un peu crispé aujourd'hui, tendu, s'il te plaît, donne-moi de ta paix. Et j'imaginais le Saint-Esprit arriver avec une petite bouteille. Ah oui, ça, c'est dissipé. Ça, c'était un de mes plaisirs. Oh, non, trop tôt. Attends. Une petite bouteille. Avec la paix de Dieu sur l'étiquette. Et il ouvrait la bouteille, je versais la paix dans ma gorge, un peu épais comme de la mélasse. Et moi je disais, « Ouh, la paix coule en moi comme une rivière, dans mon âme. » Pour un petit bout du temps, car l'effet se dissipait. Puis je lisais dans le catalogue, et ça c'est le dernier parce que je m'amuse trop, donc je fais juste trois mots. Puis je lisais dans le catalogue que je pouvais avoir de la puissance de Dieu. Alors je priais, Seigneur, je me sens si faible, donne-moi de la puissance. Et j'imaginais le Saint-Esprit arriver avec une sorte de bâton de puissance et allumer la mèche. Et boum, j'avais de la puissance, je me sens fort. Mais l'effet se dissipait après un petit bout de temps. Vous comprenez l'idée? Mais c'est correct, on peut rouvrir la Bible, trouver d'autres choses et placer une autre commande. C'était ma conception de la vie chrétienne. Dans les premières années, j'étais constamment en train de demander à Dieu de me donner des choses. Donne-moi ceci, donne-moi cela, etc. Mais le moment peut-être le plus transformateur de ma vie chrétienne était quand je commençais à me rendre compte que Dieu n'avait qu'une chose à me donner. Lui-même. Christ en moi. Jésus-Christ est vraiment venu vivre en moi, en toi, si vous êtes chrétien. Il ne s'agit pas d'une métaphore ici. Comme quelqu'un m'a dit une fois, « Oh, ça c'est vraiment un concept merveilleux, ça. » Ce n'est pas un concept. Ce lutrin n'est pas un concept, c'est une réalité. On parle d'une réalité spirituelle, une chose réelle. Nous ne parlons pas d'une doctrine ici non plus. C'est une réalité spirituelle. Jésus-Christ demeure en nous véritablement, ce qui nous rend capables de vivre la vie chrétienne d'une façon convenable, d'une manière qui lui plaît. Et ça nous rend capables aussi de vivre une véritable communion avec lui. C'est pas juste une vie chrétienne, ça commence dans une communion, une relation avec quelqu'un qui nous habite. D'être dirigé par lui et d'accomplir ce qu'on ne peut pas accomplir humainement par nous-mêmes. Et si nous ne vivons pas à la lumière de cette réalité, dans le bien-être de cette réalité, en fonction de cette réalité, notre vie chrétienne sera toujours comme pousser un énorme rocher au sommet de la colline. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Toutes les choses que je recherchais, toutes les qualités que je demandais à Dieu, m'avaient déjà été données comme l'expression de la vie de Christ en moi. Vous comprenez la différence? Pas besoin de placer une commande, c'est déjà là. Ce que nous discutons ici est la substance de base, à mon avis, l'essence de l'Évangile. Jésus-Christ lui-même, par l'Esprit-Saint, demeure en nous. Et quand vous avez Christ, vous avez tout ce que Dieu veut vous donner. Déjà. Voilà pourquoi en Colossiens, Paul dit ceci, il dit, pour connaître le mystère, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout ce qu'il nous faut pour vivre la vie chrétienne est incorporé, intégré en Christ, et Christ habite en toi. Paul répète l'idée dans ce passage en Éphésiens, où il dit, « Béni soit le Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, voilà le magasin, et où est-ce qu'il nous a bénis? En Christ. » Et où est Christ en moi? Ça a l'air d'être une subtilité, mais pour moi c'est très important. Parce que commander les articles et essayer de les mettre en pratique, c'est une chose. De voir la vie de Christ libérée en nous est toute une autre chose, parce que c'est une nouvelle vie. C'est pas juste une nouvelle façon de vivre avec l'équipement nécessaire, c'est une nouvelle vie en nous. Ce qui définit maintenant notre vie, c'est notre union avec Jésus-Christ. Et pourtant, c'est très souvent, on capte ça peut-être dans le cerveau, mais pas vraiment, nous le croyons dans nos têtes, peut-être, mais la manière que nous parlons nous dévoile souvent notre mauvaise compréhension. Voilà ce que je veux dire. Nous entendons souvent les chrétiens qui vont prier, par exemple, « Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. » N'est-ce pas? Moi, j'ai prié comme ça parfois. Seigneur, sois avec nous dans notre réunion ce soir. Je pense qu'il dit, c'est un peu comme si ton ami est dans la voiture derrière, je dis, ah, j'aimerais que mon ami soit là. Et il dit, je suis déjà là. Pas besoin de m'inviter, je suis présent. Et ça change toute la façon d'avancer. Et quand on parle comme ça, ça met en évidence que nous n'avons pas commencé à comprendre la vie chrétienne. On est en train de commander plutôt que de découvrir ce que ça veut dire de voir Christ de plus en plus manifesté en nous, libéré en nous. Ça soulève beaucoup de questions. Alors, le premier élément tiré des sept mots, c'est une personne, Christ, en nous. Deuxième, c'est un endroit, en vous. Et le troisième élément, c'est qu'il s'agit d'un but, un objectif. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, ça commence à être intéressant, mais c'est déjà un peu intéressant. Mais là, nous arrivons, je pense, au sommet de la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la gloire? La gloire. La gloire, en fin de compte, à son plus simple, c'est le caractère moral de Dieu. C'est la beauté de qui il est, de tout ce qui le concerne. Ça, c'est la gloire de Dieu, la beauté de ce qui il est, sa personne, sa manière d'être, ses pensées, tout. En contraste avec cette gloire-là, quel est notre problème de base? Eh bien, c'est le péché, n'est-ce pas? Et le mot péché veut dire manquer le cible, c'est le mot grec. Si c'est un mot qui était relié à ça dans le temps. Donc, si tu manques le cible, il dit « Ah, tu as péché ». Et ça nous représente, on manque toujours le cible. Et dans nos vies, c'est quoi le cible que nous manquons? Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». On n'arrive jamais à atteindre la gloire de Dieu. On ne représente pas Dieu. On ne manifeste pas le caractère, la beauté de Dieu par notre façon de vivre. L'humanité a été créée pour représenter, pour incarner, pour dévoiler la gloire de Dieu par la manière que nous vivons et que nous entrons en contact les uns avec les autres. C'était ça le but, dès le début. Mais nous ne faisons pas cela. Nous échouons sur toute la ligne. Quand nous sommes comparés à la référence de base, et encore, c'est quoi la référence de base? C'est le seul être humain qui n'a jamais manqué le cible. En Hébreux 1.3, nous lisons « Ce Fils est le rayonnant de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Voilà un homme où la gloire de Dieu a été manifestée du moment où il est sorti du sein de sa mère jusqu'à son dernier souffle. » Quand on est comparé avec cela, on voit qu'on manque, on passe à côté de la gloire à Dieu constamment. Je me calme un petit peu, j'ai un petit problème avec mes lunettes qui tombent et ça me distrait. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la parfaite expression de la gloire de Dieu, la beauté de Dieu. En lui, nous découvrons le caractère moral de Dieu, l'expression parfaite de son être. Et Adam avait été créé pour refléter cette beauté, mais notre race a chuté. Alors, nous n'atteignons pas la gloire de Dieu. Voilà le problème. Et quelle est donc la solution à ce dilemme? C'est quoi le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant aux saints? C'est bien Christ en toi, ton espérance, ton assurance d'être restauré à la glorieuse image du Christ pour enfin atteindre la cible en dépit de tout. Ça, c'est le but de Christ en nous, de voir la beauté morale de Dieu recréée dans chacun de ses enfants et il dit garantie. Vous pouvez vivre, vous savez que le mot espérance, même si c'est un mot qui confond, parfois ça veut dire assurance. Il va le faire. Il dit, soyez saints comme je suis saint, et il dit, je vais accomplir cette tâche-là. Ça, c'est le but vers lequel tout cela avance. Voilà le summum de l'Évangile. Donc, il s'agit d'une espérance vivante qui produit une anticipation. On doit s'attendre à ce que Dieu s'implique dans notre vie maintenant, par Christ à l'intérieur, pour nous rendre de plus en plus glorieux, si vous voulez dire comme ça. L'apôtre Jean dit « Quiconque a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Alors, il se trouve aussi un mouvement à cause de cela. Il y a un mouvement en nous, il y a une progression vers quelque chose. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, selon son mystère, de faire de nous des gens glorieux. Ou quand le Père nous voit dans notre état final, il va dire, « Ah, je vois mon Fils en toi. » D'une manière unique, parce que tu es toujours toi, mais je vois la beauté de mon Fils en toi. Et ça augmente ma gloire, et ça augmente mon plaisir. Ça, c'est le centre du mystère. Et ça, c'est la promesse. Et nous avançons vers cette espérance en menant une bataille, parce que c'est tous les jours une bataille entre la chair et l'esprit. Mais au milieu de cette bataille, nous avançons vers la maturité jusqu'au jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Ça, c'est le but vers lequel nous avançons, le but vers lequel Dieu nous fait avancer. Ça, c'est la promesse. Mais il y a un quatrième élément. Ça, c'est le troisième. D'abord, il y a Christ, une personne, un endroit en nous, un but vers lequel on avance, l'espérance de la gloire. Et quatrièmement, il y a une appropriation. Et on va traiter ça et je vais terminer. Il s'agit d'une prise de possession. C'est merveilleux tout ça, mais si on n'en profite pas, ça donne pas grand-chose. Comment approprions-nous ce dont nous parlons ce matin? Ça devient important. Comment vivre le bien de cette réalité qui représente le summum du mystère de Dieu? Imaginez une jeune personne que vous connaissez qui passe sa journée au coin de la rue, une rue à Bruxelles, avec son petit gobelet à mendier. C'est un mendiant. Il passe sa journée, s'il vous plaît, 25, 1 euro. Et il réussit, grosso modo, à vivre, à manger. Il ramasse assez d'argent pour vivre. Un jour, il trouve un billet de loto dans la rue. Je sais que je rêve, mais il prend, il dit pourquoi pas vérifier, puis oh, 1 million! Monsieur, vous avez maintenant 1 million d'euros, un compte en banque, avec 1 million, avec votre petite carte qui vous donne accès à ce compte n'importe quand. Et le lendemain, plutôt que d'aller dans un guichet, ou il va avec son petit gobelet, il continue à commander. Ça a marché jusqu'à là, il mange assez bien, merci. C'est une chose d'avoir 1 million d'euros dans son compte, qui a ton nom attaché à lui. C'est toute une autre chose de savoir profiter, de savoir exploiter l'argent qui est dans le compte. Ça, c'est l'image que j'ai. On a 1 million d'euros dans notre compte. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, de vivre selon cette réalité? Et tant et aussi longtemps que tu te contentes de l'argent que tu as sur toi, dans ta poche, tant et aussi longtemps que tu ne constates pas un besoin réel d'une force plus grande que toi, que la tienne, tu n'apprendras pas à approprier ce dont nous parlons ce matin. Ça a du sens? Pourquoi aller ailleurs quand ça suffit, mes forces, mes moyens naturels? C'est une question de dépendance. Et le problème avec nous, c'est qu'on ne dépend pas d'une autant et aussi longtemps qu'on suffit pour soi-même. Ça, c'est la nature pécheresse à son plus fort. Moi, je peux survivre sans dépendre de Dieu. Donc, il faut vraiment arriver au point où on a dit, je ne peux plus le faire. Et regardez ces versets à la fin de Colossiens, c'est intéressant, puis parce qu'il ne s'agit pas d'une dépendance passive. C'est pas que juste reste. Si tu n'avances pas vers le guichet, ça, il y a quand même un acte quelque part pour le faire. Et Paul dit en Colossiens, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà le but. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On pourrait imaginer que puisque Christ agit puissamment en nous, que nous n'aurions pas besoin de dire « je travaille ». Vous voyez? On aimerait que ça soit « ok, agis ». Mais il y a un élément où pour l'exploitation implique qu'on agisse aussi, que nous travaillons. Paul continue, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux à Laodicée. Alors l'appropriation n'est pas passive. Paul a dit, non, je travaille fort. Mais notez ceci, et voici la clé. Je travaille, dit Paul. Est-ce que ça paraît, oui? Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc c'est à moi le combat, c'est à moi la discipline, c'est à moi la bataille, mais Paul dit la force qui agit puissamment vient de lui. Je fais tout cela par sa force à lui, en moi. Voilà ce que ça veut dire de vivre spirituellement. La version amplifiée de la Bible dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne de la force. Je suis prêt à tout et égal à tout par celui qui m'infuse la force intérieure. On pourrait dire que nous sommes autosuffisants dans la suffisance de Christ, dont on s'approprie de cette force pour obéir, pour combattre, pour travailler, pour dépendre de lui, sachant que c'est par sa présence en nous que nous avons la capacité d'aimer les gens qui nous entourent, la capacité de vivre d'une manière qui honore Dieu. L'ironie de cette quatrième appropriation, c'est que la découverte de la réalité de la présence et la puissance de Dieu en nous est forcément et toujours le fruit de la découverte de, vous me voyez venir, notre incapacité de vivre la vie chrétienne dignement par nos propres forces. Et puisque nous sommes si entêtés dans notre indépendance, ça prend très longtemps pour en arriver à cette appropriation. C'est le cas de moi. Peut-être vous êtes plus rapide que moi, mais j'ai appris assez jeune à survivre pas mal bien par moi-même. Donc il faut que, moi je pense que l'image que j'ai, Dieu dit, cours mon frère, cours mon fils, et mets des murs aux endroits appropriés pour qu'en courant je poum, et je me relève en poum, jusqu'au jour où je commence à dire, je ne pense pas que je peux faire ça. Je pense que c'est ce que Jésus avait dans la tête quand il a dit plusieurs fois, il a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la trouvera. Pour trouver, pour vivre l'appropriation de cette réalité, il faut arriver à la fin de soi-même. Et je peux vous dire que dans ma propre marche avec Dieu, je me souviens d'être arrivé à une saison où je commençais à dire de plus en plus à Dieu, Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Je savais que j'aimais Dieu. Et à travers mes larmes, je disais, Seigneur, je t'aime vraiment, mais je ne peux pas vivre la vie chrétienne. C'est trop dur, c'est trop difficile. Je ne suis pas à la hauteur, je n'arrive pas. Et ça devient un moment où on est plus ouvert à l'idée d'aller vers le guichet, si je peux le dire comme ça. J'arrive vers la fin. C'est dans cette période-là où je commençais aussi à comprendre que, bien sûr, je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Quelle surprise! Parce qu'on est entêté, on ne le croit pas vraiment. Parce que Dieu dit, il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Il dit, mais sauf qu'on ne le croit pas, donc il faut qu'on frappe ces murs-là pour en arriver à Seigneur, je suis banqueroute par moi-même. Il dit, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as toute la richesse de la sagesse et de la connaissance, toutes les bénédictions dans les lieux célestes déjà en toi, dans ton compte, en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et depuis cette prise de conscience, ma vie chrétienne a pris un nouveau tournant. Une fois pour tout, jamais de la vie, il faut revenir souvent. Bon, pour terminer, voilà la parole de Dieu dans sa plénitude, dont je suis le serviteur, dit Paul, qui concerne un mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Maintenant, enfin, le mystère est élucidé. Christ est le point de convergence dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le mystère est Christ en vous. Arrêtons d'essayer de vivre pour lui. Laissons-le vivre en nous par la foi et la dépendance. Toute une différence. Ce sera notre espérance, notre assurance de la gloire. Nous attendrons à ce que les choses changent, à ce que les choses se passent. Parce que Dieu dit, je lâcherai pas cette œuvre jusqu'à ce que tu ressembles à mon Fils. Et nous travaillerons, nous combattrons, nous lutterons avec une énergie divine. Ce qui est ironique, comme j'ai dit, je termine avec un peu cette idée, que ceux qui capteront le mieux le message de ce matin sont ceux qui veulent bien reconnaître combien ils sont épuisés au bout du rouleau. Je n'en peux plus. Mes efforts ne m'amènent pas. On baisse les bras. On pense que c'est une défaite. C'est pas la défaite, c'est le début. Vraiment le début. Ceux qui ont baissé les bras et ne peuvent plus continuer comme avant seront ouverts à ce que Dieu nous offre. Si vous n'êtes pas là, il y a des chances que ce message n'aura pas grand sens pour vous ce matin, car ce message parle à ceux qui volent de leurs propres ailes et n'en peuvent plus. C'est à ce moment-là que l'on découvre la plénitude et la suffisance de la vie qui nous habite. Ça a du sens, non? Je vous laisse avec une prière. C'est drôle, c'est une prière de Paul, le deuxième Paul en Éphésiens. Et c'est une prière que j'ai pris pour moi en vue de tout ce que j'ai enseigné ce matin pour me rappeler, pour que cette réalité devienne de plus en plus vraie. Et voici le verset avec lequel je vous laisse. À cause de cela, et quand vous regardez les conséquences, il est en train de parler du mystère encore en Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que ça soit une réalité quotidienne de plus en plus, la présence de Christ qui habite en nous et il nous inspire et nous libère pour aller de l'avant.